Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 18 novembre. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Rosine Munezero.
Pour commencer, les titres.
Les États-Unis et le Kenya poussent un cessez-le-feu en Éthiopie au premier jour de la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Le Soudan a connu hier sa journée la plus meurtrière depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan. 15 manifestants tués.
25 civils tués au Niger. Tel est le bilan, le dernier bilan provisoire de l'attaque djihadiste de mardi dans l'ouest du pays.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore monte au créneau après la mort de 53 personnes dans l'attaque de dimanche contre le détachement de gendarmerie d'Inata au Sahel.
Mali, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et 150 personnalités sur la liste des sanctions individuelles de la CDAO, selon une liste consultée par l'AFP.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les États-Unis et le Kenya, première étape de la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ont poussé hier un cessez-le-feu en Éthiopie, réaffirmant leur espoir d'une conclusion positive aux intenses efforts diplomatiques pour faire taire les armes. Abdourahman Dia.
Au premier jour d'une tournée africaine centrée notamment sur la démocratie qui le mènera ensuite au Nigeria et au Sénégal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également appelé le Kenya, un allié de longue date, à garantir des élections libres l'année prochaine. À Nairobi, le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu pendant une heure et demie avec le président Uhuru Kenyatta qui participe activement aux tentatives de médiation régionale sur le conflit éthiopien. Nous croyons qu'un cessez-le-feu est possible, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe la ministre kényane des Affaires étrangères, Rachel Omamo. M. Blinken a lui appelé à des avancées concrètes pour la paix et à la reprise de l'aide humanitaire au Tigré, où des centaines de milliers de personnes vivent dans des conditions proches de la famine, selon les Nations Unies. Lors d'une conférence de presse avec des responsables de l'organisation est-africaine IGAD, M. Blinken a affirmé que les solutions venant des Africains sont les plus efficaces pour régler les crises du continent.
Ajoutons que le chef de la diplomatie américaine a aussi appelé les Africains à rester vigilants face aux menaces croissantes contre la démocratie.
Au Soudan, 15 manifestants ont été tués à Khartoum. C'était la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre mené par l'armée qui a coupé l'ensemble des communications. Le point avec Eric Manirakidza.
Dans la seule banlieue nord de la capitale, 11 personnes dont une femme ont été fauchées par des balles tirées selon un syndicat de médecins pro-démocratie par les forces de sécurité. La police assure ne pas ouvrir le feu et la télévision d'État a même annoncé l'ouverture d'une enquête sur les manifestants tués. Depuis le putsch il y a plus de 3 semaines, 34 personnes, dont 3 adolescents, ont été tués et des centaines blessés. La répression a semblé se durcir mercredi pour la 3e journée de mobilisation massive. Les militants n'ont pas pu mobiliser comme d'habitude par SMS. Dès la mi-journée, le nouveau pouvoir militaire a coupé toutes les communications téléphoniques, tandis qu'Internet est inaccessible dans le pays depuis le 25 octobre. Jusqu'hier dans la soirée, des centaines de manifestants continuaient de tenir leurs barricades, notamment dans la banlieue nord de Khartoum, pour dire non au pouvoir militaire, tandis que les manifestations dans les autres villes du Soudan s'étaient dispersées.
25 civils ont été tués mardi dans une attaque de djihadistes présumés dans l'ouest du Niger, près du Mali, a annoncé hier soir le ministère nigérien de l'Intérieur. Un précédent bilan donné par des sources locales à l'AFP faisait état d'une dizaine de civils tués. Mardi, le campement de Bakora dans le département de Tilia a été l'objet d'attaques perpétrées par des individus armés non identifiés, affirme le ministère dans un communiqué. communiqués lus à la radio.
Il a déploré une deuxième attaque contre la localité de Temaram, dans le département de Tawa, par des individus armés non identifiés qui ont incendié ou saccagé des infrastructures sociales, dont la mairie, le centre de soins et la société nigérienne d'électricité. Deux agences de transfert d'argent ont également fait l'objet de pillages, souligne le ministère. Les opérations de ratissage sont engagées et se poursuivent dans les zones concernées, assure le ministère de l'Intérieur.
Au Burkina Faso, la mort de plusieurs dizaines de militaires dans une attaque au Sahel dimanche a poussé le président Kaboré à sortir de son mutisme. Dans une brève allocution hier à la sortie du Conseil des ministres, il a indiqué que des mesures seront prises pour éviter de tels drames de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le dernier bilan fait état de 53 morts selon le gouvernement. 49 gendarmes et 4 civils ont été tués dans l'attaque du détachement de gendarmerie d'Inata au Sahel le dimanche dernier. Avec ce bilan lourd et des révélations sur le manque de rations alimentaires et le détournement des primes des soldats au front, le président Kaboré a décidé de monter au créneau.
Il ne peut pas être normal en ce moment que l'armée, qui doit être la structure la mieux organisée, que dans cette armée nous ayons des dysfonctionnements à un niveau aussi important que les dysfonctionnements concernant la question de l'alimentation, les questions logistiques et autres.
Le président du Faso assure que les responsabilités seront situées.
Je voudrais d'ores et déjà dire que les instructions ont été données pour qu'une enquête administrative soit faite sur l'ensemble de cette question. Nous ne devons plus entendre parler des questions d'alimentation dans notre armée.
Et des têtes vont tomber si toutefois des gens se rendront coupables de ces dysfonctionnements au détachement de Inata.
D'ores et déjà, nous avons pris un certain nombre de mesures. Je dis et je répète qu'au terme de l'enquête, l'ensemble des personnes qui seront concernées dans cette question relative à Inata feront l'objet des sanctions disciplinaires sans exception.
Roch Kaboré a procédé au relèvement du commandant du groupement des forces du secteur nord et celui de la première région de gendarmerie de leurs fonctions. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le premier ministre malien de la transition, Choguel Kokkala Mayga, et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi environ 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la CEDEAO, révèle un document officiel de l'Organisation régionale ouest-africaine obtenu hier par l'AFP. Le colonel Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 18 août 2020, en est en revanche absent. Autre absent notable de cette liste sur laquelle se trouvent 27 ministres, en plus du chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Aucune explication n'est fournie à leur absence dans le document obtenu par un correspondant de l'agence France-Presse. En outre, les 121 membres du Conseil national de la transition, qui fait office d'organe législatif, sont sanctionnés. Les avoirs financiers de tous ceux qui se trouvent sur la liste sont gelés et ils ont l'interdiction de voyager au sein de la CEDEAO. Ces sanctions frappent aussi les membres de leur famille.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Libye, Aguila Saler, le président du Parlement de Tobrouk dans l'Est, a annoncé hier dans un discours télévisé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre.
Et ici aux États-Unis, plus de 100 000 décès par overdose ont été enregistrés sur un an durant la pandémie de COVID-19. Les autorités s'alarment d'une crise sans précédent liée aux ventes illégales de fentanyl, un puissant opiacé. Davantage de précisions avec Mohamed Oumfa.
Entre avril 2020 et avril 2021, les États-Unis ont dénombré 100 000 et 306 overdoses fatales, soit une augmentation de 28% par rapport à l'année précédente, selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies. C'est la première fois que la barre symbolique de 100 000 décès est dépassée. En somme, c'est un décès toutes les 5 minutes. La pandémie de COVID-19 a accéléré le phénomène avec l'isolement accru de certaines populations, selon les experts. Ces overdoses sont largement entraînées par les opiacés de synthèse, essentiellement le fentanyl fabriqué illégalement, a déclaré Deb Houri, responsable au sein des CDC. Les overdoses liées à la méthamphétamine, un stimulant très addictif, ou à la cocaïne, ont elles aussi augmenté. Selon Anne Milgram, qui dirige l'agence américaine antidrogue, des cartels mexicains utilisent des produits chimiques importés de Chine, font croire aux consommateurs qu'ils achètent en ligne des médicaments homologués et pouvant être obtenus sur prescription, quand il s'agit en réalité de produits contrefaits très dangereux. Selon elle, son agence a saisi cette année plus de 14 millions de fausses pilules, une quantité qui ne cesse de croître chaque année.
La Minute Éco, Nanit Talani.
RDC, les parlementaires qui ont enquêté sur l'exploitation minière illégale par des sociétés étrangères dans le sud de Kivu préconisent des mesures drastiques pour remettre de l'ordre dans le secteur. Ils demandent à l'exécutif d'infliger et exiger des amendes aux sociétés concernées ou encore, pour lutter contre les trafics et déclarations frauduleuses, de créer des centres de négoce pour les transactions aurifères dans les zones d'exploitation artisanale de Mwinga. Ils suggèrent aussi la suspension de toute activité minière dans la province, l'identification et le retrait, le cas échéant, des droits aux sociétés et coopératives irrégulières. La BAD veut aider la Tanzanie à renforcer son domaine énergétique grâce à la remise en état des anciennes lignes de transport d'électricité. La part des énergies renouvelables doit également progresser au niveau national à 3495 GWh en 2025 contre 2615 GWh en 2020. Cela sera possible grâce à la construction de systèmes de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, notamment l'hydroélectricité, la géothermie, le solaire et l'éolien.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. L'ancien international camerounais Samuel Etofis a déposé hier à Yaoundé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football, assurant qu'il serait le prochain président malgré les tricheries, selon ses termes. S'adressant au dirigeant actuel de la FECAFOOT, l'ancien attaquant vedette du Barça prévient.
Qu'il sache si l'un de mes délégués, l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions pour les déloger.
L'ex-buteur de 40 a assuré que l'équipe sortante lui a proposé le poste de vice-président qu'il a refusé.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Tchirindo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76.
Samuel Eto'o a annoncé son intention de se porter candidat le 22 décembre, estimant qu'il était temps de lancer le chantier de la reconstruction du football camerounais. Il a déclaré que le président actuel de la FECAFOOT a lamentablement échoué selon ses propres mots. En 2018, Eto'o a pourtant soutenu la candidature de Seydou Mbombon Djoya, mais il exprime aujourd'hui sa déception. Pour les supporters de Samuel Eto'o, nul doute qu'il remportera cette élection à la présidence de la FECAFOOT. On écoute quelques-uns d'entre eux.
Nous sommes confiants que Samuel Etofis peut gagner cette élection. Au départ de sa capacité technique déjà et le professionnalisme qu'il a su dans le football, vraiment lui donne tous ses profits de gagner.
Cette candidature d'Etofis est populaire, certes, mais ce n'est pas la population qui vote. Nous savons tous que ce sont les délégués qui vont voter, mais je crois qu'au niveau des délégués aussi, il va pouvoir gagner des voix. Il a ses chances, il a des fortes chances d'ailleurs. C'est quand même le Pichichi, donc il peut gagner, mais c'est la peine qui justifiera les moyens.
L'élection du nouveau président de la FECAFOOT est prévue pour le mois de décembre. En Angleterre, le président de la Premier League, Gary Hoffman, va démissionner de son poste fin janvier en raison de la réaction hostile des clubs au rachat du club de Newcastle par un fonds d'investissement public saoudien. De nombreux clubs ont protesté suite à la décision de la Premier League d'autoriser ce fonds d'investissement présidé par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a entré au capital de Newcastle il y a un mois. La Ligue a déclaré avoir reçu des assurances juridiques que l'État saoudien n'aurait pas le contrôle du club. 18 clubs, à l'exception de Newcastle et de Manchester City, ont soutenu une motion visant à interdire momentanément le projet. C'est ce qu'a annoncé la Première Ligue. Gary Hoffman n'était en poste que depuis 19 mois. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Quelques-uns de ces résultats, Milwaukee et LA Lakers 109 à 102, Brooklyn Nets et Cleveland 109 à 99, Miami et la Nouvelle-Orléans 113 à 98, Charlotte et Washington 97 à 87, Atlanta et Boston 110 à 99. Monde aujourd'hui, VOA Afrique, de nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, des familles et les organisations de la société civile appellent à une enquête pour élucider le décès de 6 personnes au commissariat de police de Brazzaville. Les ONG locales demandent une autopsie sur tous les corps et l'implication de la justice afin d'établir les responsabilités au niveau de la police. De Brazzaville, les précisions de notre correspondant Arsène Séverin.
Les familles sont encore sous les chocs. Elles ne comprennent pas comment leurs proches ont pu trouver la mort alors qu'ils étaient en détention au commissariat de police. Norma Mombouli, dont le frère Elek Brandon est l'une des victimes, n'en revient pas. Témoignage.
Ce sont les mêmes amis qui m'ont appelé pour me dire qu'il était mort. On l'a arrêté à midi dans la Sekna. Il y a un qui me dit qu'on les a attrapés, il était 21h dans la parcelle, ils étaient en train de manger. On les a emmenés au Comus. Arrivé au Comus, on les a transférés au central. On leur a fait signer des papiers pour dire que ce sont des grossistes de chanvre. Le lendemain, à 6h, c'est là où on nous informe qu'il est mort. Moi, du coup, là où j'étais, je ne me sentais plus.
La famille de feu Hippolyte Doukoro, quant à elle, a eu du mal à reconnaître le corps sans vie de ce policier mort dans les geôles du commissariat central. Il porterait les traces de violence sur le corps. Son oncle Armand Nassimakoko explique.
On ne comprend rien. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. Plein de sang, sous-vêtements. Et tout. Bon, là-bas, on nous dit que c'est l'étouffement. Quel est cet étouffement? Le visage enflé, tout ça là. On s'est dit qu'ils ont été torturés. C'est cela. Nous sommes allés à la DDP là-bas. On nous a donné un petit papier là. C'est ce qui a permis qu'on reparte à la mort, prendre maintenant le corps et mettre dans un casier.
Cette organisation locale des droits de l'homme se sont saisies du dossier. Elles exigent plus de lumière de la part des autorités, de l'autopsie et de la justice pour toutes les 6 victimes. Monica Ngalula est la responsable juridique du Centre d'action pour le développement.
Actuellement, nous avons reçu 3 familles qui ont témoigné, qui ont confirmé avec les numéros des casiers que leurs enfants ont trouvé la mort au commissariat central de Brazzaville. Nous avons déposé une demande de réquisition à Médecins pour qu'on puisse faire l'autopsie de ces corps et identifier les circonstances dans lesquelles ces personnes là sont décédées. C'est une situation qui est scandaleuse parce que vous n'êtes pas ignoré que ça fait 2 mois que nous avons eu à alerter déjà les autorités sur la situation au niveau du commissariat central. Et jusqu'à ce jour, rien n'a bougé. Et aujourd'hui, on est surpris qu'il y ait des morts en détention.
En juillet 2018, 13 jeunes avaient péri dans des conditions très troubles au commissariat de police de Chakona à Brazzaville. 6 sous-officiers de police avaient été condamnés au terme d'un procès obtenu au forceps par la société civile. Condamné civilement à payer 195 millions de francs CFA aux familles des victimes, l'État n'a versé jusqu'aujourd'hui aucun sou. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée dans 3 pays africains. Au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, il évoquera des questions liées à la démocratie, la sécurité et la coopération économique. Ceci dans un contexte de poussée russe et chinoise sur le continent. Quel est l'état et l'avenir de la coopération entre Washington et le continent africain dans les domaines économiques et sécuritaires? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le golfe de Guinée est actuellement miné par la piraterie aérienne. La CDAO est donc sur plusieurs fronts pour mettre en ordre de bataille non seulement les armées, mais aussi et surtout les sociétés civiles de la sous-région ouest-africaine. Abidjan abrite cette semaine plusieurs réunions militaires et civiles pour arrêter une stratégie globale de lutte contre la piraterie maritime. Pour en parler, Jean-Roger Bion a joint dans la capitale économique ivoirienne le colonel Karim Koulibaly, directeur de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer.
Le premier problème que ça pose, c'est le problème d'insécurité déjà dans le port. C'est-à-dire qu'un navire marchand, qui sont des navires qui appartiennent à des compagnies internationales, s'engage dans le golfe de Guinée, il y a une crainte, il y a un gros risque qui pèse dessus ce navire parce qu'à tout moment, il peut être attaqué. La deuxième chose aussi, c'est que pendant les attaques également, quelquefois, il y a mort d'hommes parce qu'ils utilisent des armes, c'est quand même des armes de guerre. La troisième chose, c'est l'impact que ça a sur notre zone, sur le golfe de Guinée. Il y a une grande zone de transit international et vous savez que tous les États riverains du golfe de Guinée, leur économie est basée sur le maritime. 90% des échanges de nos zones passent par la mer. Et une fois que ces compagnies se sentent menacées, soit elles peuvent arrêter de venir dans le golfe de Guinée, soit elles peuvent aussi augmenter les coûts, mettre des surcoûts d'assurance, etc.
La solution que l'on cherche maintenant, c'est une solution au niveau de la CDAO. Pourquoi les stratégies appliquées jusque-là ne marchent pas?
Le problème, il est là, mais je pense que de plus en plus, les États sont en train de lutter. La zone sensible de la piraterie au niveau du golfe de Guinée, c'est au large du Nigeria. Et nous savons que dernièrement, le Nigeria a pris des mesures vraiment fortes pour lutter encore plus contre la piraterie. Nos États avaient des problèmes par le passé parce que les législations n'étaient pas adaptées. Mais de plus en plus, chaque État est en train de mettre en place des législations adaptées et s'équiper en patrouilleurs, en navires pour pouvoir poursuivre ces bandits. Mais surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la coordination qui existe au niveau des États. Vous avez vu qu'à ce moment où je vous parle, les chefs d'État-major des États, les chefs d'État-major généraux sont réunis. Il y a eu la réunion des chefs d'État-major des marines, même des États du Golfe de Guinée. Donc les États se parlent entre eux. Et donc, il y a une coordination aujourd'hui dans cette lutte-là.
Alors, il y a le terrorisme au nord, dans le Sahel. Il y a la piraterie sur le littoral. Les deux appellent des solutions qui, selon vous, convergent?
Je pense que les deux convergent, parce que ce sont des luttes qui transcendent les États. Et ce sont des menaces qui transcendent les États. Vous avez vu, vous avez parlé du terrorisme dans le Sahel. Vous avez vu, on est parti de la zone des trois frontières. On est descendu jusqu'au sud du Mali et du Burkina. Et aujourd'hui, c'est une menace. Le nord de la Côte d'Ivoire est carrément menacé. Les autorités ivoiriennes ont pris à bras le corps la question. Mais les autorités ivoiriennes, leur approche est d'abord au niveau interne, se donner les moyens de contrer, les moyens militaires, les moyens de renseignement, etc. Mais également, l'un des axes de l'action des autorités ivoiriennes, c'est de se dire que c'est une menace transnationale. Donc, elle travaille en coordination avec tous les États du Golfe, tous les États qui sont concernés. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, a fait des tournées dans ces États-là. Et donc, tout le monde est conscient, tous les États sont conscients que c'est de façon concertée qu'ils peuvent lutter contre ce fléau. Donc, la question, elle est multiforme. La réponse aussi est multiforme.
Le colonel Karim Koulibaly, directeur de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en Côte d'Ivoire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé au début du mois vouloir renforcer la sécurité des travailleurs en faisant réviser le code de la sécurité sociale parce qu'aujourd'hui, les accidentés du travail vivent un véritable calvaire. Parfois amputés, ils perdent leur emploi, leur couverture médicale et leur rente ne suffit pas pour vivre. C'est le cas de Mamadou Niang qu'Alison Lekogo Fernandez a suivi dans la banlieue de Dakar.
Sa vie a basculé il y a 15 ans. Victime d'un accident du travail, Mamadou Niang a perdu les 5 doigts de la main droite, broyés dans une machine mal fermée. Meunier de formation, il travaillait comme cadre de production dans une grande société agroalimentaire du pays.
Je venais de marier et voilà, ma femme était enceinte aussi. Donc ça a été un choc terrible. Et je me disais, est-ce que je pourrais tenir ma main? Je pourrais tenir mon bébé? Est-ce que je pourrais aller à l'école? Est-ce que je pourrais amener mon enfant à l'école en voiture? J'avais toutes ces questions que j'ai posées.
Après 8 mois de convalescence, Mamadou Niang retourne au travail et devient formateur de meunier dans la même société. Mais en 2017, la direction change. Elle se sépare alors de 5 accidentés du travail, dont Mamadou, qui n'a jamais perçu aucune indemnité pour la perte de son membre.
Vous avez reçu tellement de chocs que l'entreprise, c'est vrai, vous pensez qu'il va vous aider. Mais malheureusement, des jeunes comme nous qui font ces genres d'accidents et après qu'on jette la poubelle comme ça.
Père de 7 enfants, Mamadou Niang est donc au chômage depuis 4 ans. Il vit avec une maigre rente de près de 60 000 francs CFA par mois, soit une centaine de dollars. Il se retrouve donc sans emploi et sans couverture médicale, ni pour lui ni pour sa famille. La sécurité sociale ne rembourse en effet que les frais liés à l'accident du travail en lui-même.
Accidenté, peut-être malade, sans pour autant que les séquelles de l'accident soient réveillées. Nous pouvons avoir une autre maladie. Moi, j'ai une amputation. Je peux me lever un de ces 4 matins et avoir un mal de dos. Hein? Si je ne parviens pas à l'expliquer ou bien à donner les preuves de cette maladie, immédiatement, la caisse le rejette parce qu'ils disent que ce n'est pas lié à l'accident.
Il y a quelques semaines, le président sénégalais, Macky Sall, a annoncé en Conseil des ministres vouloir renforcer la sécurité sociale des travailleurs. Une lueur d'espoir pour les membres de cette association qui réclame une refonte du code de la sécurité sociale, une revalorisation des rentes et une couverture médicale appropriée pour les accidentés du travail. Alison Ekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Le Burkina Faso a récemment intégré sa première femme pilote dans l'armée de l'air. Dans ce reportage, notre correspondant Henry Wilkins a rencontré Honorine Moyenga à Ouagadou alors qu'elle se préparait à décoller. Elle a parlé entre autres de son espoir d'inspirer les autres. Récit de Yakuba Ouedraogo.
Depuis son enfance, Honorine Moyenga rêvait de piloter un avion. Après avoir obtenu son diplôme, l'armée de l'air a proposé de parrainer sa formation à l'école de pilotage, ce qu'elle a vite accepté. Le fait qu'il n'y avait pas d'autres femmes pilotes dans l'armée de l'air burkinabé à l'époque ne l'a pas arrêtée.
J'ai gardé ce rêve, je l'ai nourri et dès que l'armée de l'air m'a donné l'opportunité de le réaliser, je n'ai pas hésité. J'ai saisi ma chance et me voilà pilote.
C'était il y a 7 ans et maintenant elle est pilote de transport à part entière pour l'armée de l'air et joue un rôle actif dans la bataille contre les groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Elle dit qu'en tant que première femme pilote militaire au Burkina Faso, elle n'a pas l'impression d'avoir rencontré plus d'obstacles qu'un homme, sauf peut-être plus de pression pour performer.
Donc quand tu es une fille, la seule fille, dans un milieu d'hommes, tous les regards sont sur toi. Ton travail est examiné de très près. Donc je devais travailler plus dur que les autres pour prouver que j'étais tout à fait capable.
Le commandant de Moyenga dit qu'il ne l'a pas traité différemment des autres pilotes. Capitaine Stana Saïdou, commandant de l'escadron de transport.
Au niveau de l'escadron, non, parce qu'il y avait déjà une prise en compte du volet genre globalement dans toute l'armée. Et donc, au niveau des locaux, c'était déjà pris en charge.
Les statistiques sur le nombre de femmes dans l'armée à l'échelle internationale sont rares, mais l'ONU affirme que l'introduction d'un plus grand nombre de femmes dans l'armée est importante pour la diversité et l'égalité des sexes. Les femmes peuvent être particulièrement efficaces en première ligne dans les rôles de maintien de la paix, car elles sont capables de se connecter et de renforcer la confiance avec d'autres femmes dans des communautés qui peuvent être hostiles. Les tensions entre les forces de sécurité au Burkina Faso et les civils sont souvent vives. De nombreux civils déclarant avoir peur des militaires qui viennent souvent de différentes régions du pays et de différents groupes ethniques. Lani Kelini fait partie de l'équipe d'ONU Femmes pour la paix et la sécurité.
Avoir des femmes dans des rôles de première ligne, interagir avec et autour de la communauté est un facteur essentiel d'une paix durable. Là où nous traitons avec des insurrections, où nous traitons avec différents groupes tribaux sur le terrain, c'est vraiment important.
À l'université de Ouagadougou, des étudiantes affirment que des modèles comme Moyenga les encouragent à occuper des emplois traditionnellement masculins et contribuer au développement du pays. Odette Soumé, étudiante.
C'est bon, toutes les femmes, nous tous, on peut, chacun peut espérer aussi faire ce qu'elle a fait aussi, même si ce n'est pas dans le pilotage.
Quant à Moyenga, elle dit ressentir désormais le poids de la responsabilité de performer et encourage les femmes à opter pour des rôles traditionnellement masculins, quelle que soit leur profession.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique au micro, Idrissa Sedoudia et Rosine.